Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Camille Chai. En tout cas, moi de mon côté, je vais très bien. Et comme à chaque semaine, quand je me pose devant mon micro et que je suis contente de venir vous parler, eh bien, c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir mes invités du jour. Et ma première invitée aujourd'hui s'appelle Hélène Saint-Pierre. Elle vit avec la paralysie cérébrale depuis son enfance. Elle est aussi bénévole et animatrice pour l'Association des handicapés gaspésiens, donc en Gaspésie, vous l'aurez deviné. Et mon deuxième invité s'appelle Nicolas Claveau. Lui, il vit avec l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, donc il va nous en parler un peu plus. Présentement, il s'entraîne très, très, très fort pour parcourir le tour du lac Saint-Jean en 4 jours pour justement contribuer à la recherche pour cette maladie. Mais ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Il est aussi conférencier, entraîneur sportif, écrivain. Bref, si on allait leur parler en personne, ce serait bien, non? On y va tout de suite. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, ma première invitée, comme je vous l'ai dit, s'appelle Hélène Saint-Pierre. Elle a 69 ans. Elle est célibataire depuis une vingtaine d'années. C'est une information à prendre ou à laisser, hein? Mais bon, je le dis quand même. Et elle est née à Cap-Chat, en Gaspésie. Bonjour, Hélène.
Bonjour, Camille.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Oui, pas trop nerveuse de faire votre belle entrevue aujourd'hui?
Un petit peu nerveuse, parce que je ne suis pas habituée.
Mais
c'est pas grave.
Non, c'est pas grave du tout, même que ça fait plaisir. C'est ça le but de l'émission, c'est de se rencontrer puis d'avoir des belles discussions sur vous et sur votre vie. Alors, c'est pas très compliqué, hein?
Non.
Dites-moi, pour commencer, vous avez une très grande famille, Hélène. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre portrait de famille?
Moi, je suis née à Cap-Chat, en Gaspésie. Et puis, j'ai 6 frères et 1 sœur. Oui. Puis, j'ai 2 parents. C'est sûr, mes parents sont décédés dernièrement. Là, ça fait plusieurs années. Et puis, ma sœur est sa matane.
D'accord.
Puis, c'est ça. J'ai encore des frères qui restent à Cap-Chat. Puis, c'est ça. Il y en a qui restent à Montréal. Puis, donc, okay. C'est dispersé un petit peu.
Quand même. Mais je sais que votre sœur, en l'occurrence, elle est très proche de vous.
Oui, 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 beaucoup proche de moi, parce qu'elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai besoin d'aide, elle est là, je sais qu'elle est là, est toujours présente, quand elle peut. Oui, oui, oui. Oui.
Bon, on va pouvoir en reparler tout à l'heure, hein, pour avoir une idée du rôle qu'elle a auprès de vous. Mais pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de votre différence, de votre handicap.
Moi, j'ai la paralysie cérébrale depuis que je suis née au monde. C'est physique. J'ai le côté droit, j'ai une petite main que je me sers ben avec le temps, quand j'ai commencé à venir, bon, en tout cas, quand j'ai vécu puis tout ça, je veux dire, j'ai commencé à me débrouiller un petit peu tout seul, oui. Mais là, je m'en servais un petit peu. Disons qu'avec le temps, je l'appelle ma demi-main. parce que je m'en sers un petit peu. Mais ça, c'est avec le temps que je me suis habituée à me servir de ma main un petit peu. Mais ça reste que j'ai pas de force dedans, rien, là. Fait que c'est ça, ma main puis ma jambe aussi.
Et donc, ça, c'est le côté droit. Donc, vous avez, oui, la paralysie cérébrale. Donc, vous êtes hémiplégique du côté droit.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Puis je porte une canne. Des fois, l'hiver, je prends ma canne. J'ai une canne. Mais je ne suis pas en fauteuil roulant, rien. Là.
Donc, vous n'utilisez pas non plus de prothèse? Parce que je pense que votre jambe droite aussi, elle est un petit peu plus courte que l'autre.
Oui, c'est ça, oui, elle est un petit peu plus courte que l'autre, du talon. Et puis, c'est sûr que j'ai des prothèses dans mes souliers puis dans mes bottillons.
Oui, donc
j'ai
des orteils,
prothèses,
oui.
C'est sûr, c'est donc moi. Ouais, puis, mais j'ai pas de prothèse vraiment dans la jambe, rien, ni dans le bras, là. Je suis habituée à fonctionner comme ça, là, depuis que je suis au monde, là. Puis, j'ai commencé, puis je voulais pas avoir de prothèse non plus, rien. Je suis habituée, ça fait que j'ai pas besoin d'avoir de prothèse dans ma jambe ni dans mon bras.
Est-ce que ça vient de l'éducation de vos parents, mais peut-être de votre volonté de justement apprendre à vous débrouiller toute seule avec les moyens que vous aviez?
Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours aimé ça, me débrouiller toute seule, d'apprendre aussi, comme, je sais pas, j'ai appris à faire des nœuds à mes souliers. Puis à zipper mon zip de manteau, là, disons, parce qu'en premier, j'avais de la difficulté, puis à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais capable de le faire toute seule, fait que là, je le faisais toute seule. Aujourd'hui, c'est ça que je fais. Fait que non, avec le temps, là, j'ai dit, j'ai toujours été pas mal de même, de dire, OK, j'y vais, je vais essayer, puis, tu sais, si je suis pas capable, OK, c'est correct, parce que c'est sûr qu'il y a eu des difficultés. À un moment donné, par rapport à mon travail, je vous donne un exemple. On avait un atelier de mouches à pêcher. Bien, je me suis aperçue que je n'étais pas capable de le faire. J'ai essayé, mais je me suis aperçue que ça prenait les deux mains. Fait que là, j'ai été obligée de lâcher. Des affaires de même. C'est sûr qu'il y a des limites, là. Il y avait quelques limites, là, que je n'étais pas capable, là. Oui. Mais justement, que j'ai essayé, puis il y a d'autres affaires que j'étais capable. J'y allais, j'ai dit à Barouette, j'ai découvert. Je me suis découvert en fonctionnant. Je me suis découvert des affaires que je ne savais pas que j'étais capable de faire. Fait que j'ai dépassé un peu mes limites. Je trouve ça bien.
Comme quoi, quand on veut faire quelque chose, même si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave, il faut pas s'arrêter là. Hein?
Non, il faut continuer. Moi, je me dis qu'il faut foncer, puis Puis à un moment donné, justement, on s'aperçoit que je me suis aperçue que je dépassais mes limites. Il y a quelques affaires que j'ai dit, hey, je suis capable de le faire. Avant, je n'étais pas capable. Comment ça? C'est le fun. Je trouvais ça le fun d'être capable de le faire. Là, fait que là, je me suis aperçue que j'avais défoncé mes limites.
C'est des belles victoires. En fait, c'est la pratique et la patience y sont pour beaucoup.
Oui. Surtout sur moi-même. Là. J'ai bien de la patience pour ça. Là, je veux dire, dans le sens que, en tout cas, je réussis pas la première fois, mais la deuxième fois. C'est comme quand j'arrivais à un appartement aussi, la même chose. La première fois, ça allait pas bien, mais à un moment donné, avec le temps, tiens, là, ils disent de continuer, puis là, avec le temps, on apprend aussi là, à faire la cuisine, des affaires, là, que à rester en appartement tout seul. C'est toutes des affaires que j'ai apprises. Et puis, c'est ça, là. En tout cas, ça va bien.
Bien, ça me fait tellement plaisir à entendre. Puis, je veux dire, vous avez 69 ans d'expérience. Donc, pour moi, de vous entendre, votre expérience est très précieuse. Et j'aime bien parce que vous parlez de gestes très simples. Quand vous parlez de fermer votre zip, par exemple, mais c'est un geste, j'ai envie de dire, banal que tout le monde fait. Mais on n'y pense pas quand on a juste une main.
Non.
Il y a un défi qui est là. Mais c'est vrai que c'est beau de se dire on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense, en fait.
Oui. Parce que même l'association aussi, m'a emmené, il y a quelqu'un qui avait été... On s'est rejoint là parce qu'on a des infinités du côté de l'handicap.
Oui.
Puis à un moment donné, il y a une personne qui avait le même handicap que moi, juste pour prendre une photo, disons, ça prend du côté gauche, ça prend la main droite, parce que le Kodak est du côté droit, puis donc du côté droit.
Bien,
la personne, elle me dit, « Hélène, regarde comment je fais. » Fait que là, je l'ai vu faire. Après, la personne prenait des photos. Fait que là, j'ai dit, « Tabarouette, mais essayez-moi aussi. » Fait que là, je me suis assis un Kodak, puis je prenais des photos du côté. Il dit, « Mets ton Kodak en l'envers, puis ça fait pareil. » Il dit, « Mets le Kodak en l'envers, puis tu peux sur le piton, puis la photo. » Fait que là, j'ai commencé, quand on partait en voyage, j'ai commencé à faire des photos avec mon Kodak. Fait que là, j'ai aimé ça. J'ai appris ça avec le temps.
Mais merci, parce que c'est un truc que vous nous partagez, qu'on va essayer aussi, ceux qui nous entendent peut-être. Encore une fois, c'est tout simple. On ne pense pas nécessairement à retourner un appareil photo de côté, mais c'est beau.
Parce que quand la photo arrive, qu'elle soit à la droite ou à l'envers, on s'en aperçoit pas. On la prend à la droite, puis ça ne paraît pas pantoute.
Puis on peut le modifier très facilement après. Bien, là, ça donne une raison de plus à des personnes qui aiment peut-être la photo, mais qui se disent ne pas pouvoir en profiter. Bien, merci de nous partager ce petit truc-là. Puis j'aimerais savoir, à l'inverse, qu'est-ce que votre paralysie cérébrale vous amène comme inconvénient ou plutôt comme inconfort dans votre quotidien aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, c'est les marches d'escalier. Là, j'ai de la misère avec les marches. Quand j'étais plus jeune, même, il paraît que je descendais l'escalier assis. Et puis, mon frère, il me passait, il m'en remettait ça, je m'en souviens pas. Et puis, c'est ça, même encore aujourd'hui, sur les marches d'escalier, je demeure au premier étage, j'ai de la misère avec les marches. On a un transport adapté à Matane, mais la première marche est difficile à monter, pas juste pour moi, pour d'autres personnes.
Mais elles sont souvent très hautes, hein, c'est vrai?
Oui. Puis, les chauffeurs, ils ont un petit bain, ils sont organisés un petit bain de bois. Puis là, des fois, ils nous mettent le petit bain de bois pour qu'on puisse monter la première marche. Okay. Et puis, ça va bien. Ça fait que là, il y a toujours des trucs qui m'aillent du nord, là, je veux dire, pour s'adapter, disons, là. Mais c'est le fun, j'ai pensé. C'est le fun que les conducteurs, les chauffeurs, ils ont pensé de nous faire une petite marche de plus, disons, pour qu'on ait de misère à monter les marches,
oui.
Surtout la première, puis ça fait très, très bien, en tout cas.
Ben, comme quoi, des fois, des petites adaptations peuvent vraiment faire toute la différence.
Oui.
Et vous le dites vous-même, hein, mais évidemment, bon, oui, avec l'âge, mais comme vous êtes en surutilisation, j'imagine que vous avez une fatigue qui va être plus grande, j'ai envie de dire, de votre côté gauche, parce que c'est celui que vous utilisez le plus.
Oui, parce que mon côté gauche travaille pour les deux. Il travaille pour mon côté droit, ça fait qu'il travaille deux fois plus. Tu sais, côté droit, je m'en sers un peu, mais
oui.
Seulement que le côté gauche va travailler deux fois plus. Et à un moment donné, mon médecin me disait ça, à un moment donné, j'avais mal à la jambe, encore aujourd'hui, mais quand même. Puis dans le bras, ben, il dit, Hélène, ton côté gauche, il travaille pour les deux, là, parce que l'autre, il travaille pas beaucoup, ça fait que j'ai doublement, je m'en sers doublement, disons, là, ça fait que c'est sûr qu'il travaille pour les deux côtés.
Donc ça demande un peu plus de repos.
Oui.
C'est pas plus mal. Et j'ai envie de vous offrir, en guise de repos, tiens, on va le prendre maintenant, et tous ensemble, on va aller écouter une chanson qui est votre choix musical. On va vous entendre là-dessus tout de suite après.
OK, c'est beau. Merci.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs. Ce n'était qu'une cage. tu reprendras ta course, tu iras.
C'était la chanson « Le cœur est un oiseau » interprétée par Mélissa Bédard. Hélène Saint-Pierre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cette chanson?
Oh, c'est parce que ils disent par-delà les frontières, tout ce qui peut avoir comme obstacle la personne. En tout cas, l'oiseau, il y va quand même, puis il se lance, puis c'est la liberté aussi, c'est tellement beau, je trouve ça tellement beau. C'est par-delà les frontières, par-delà les prairies, tu y vas pareil, puis tu dépasses, puis il n'y a rien qui t'arrête dans le sens. Là. J'aime beaucoup ça par rapport aux paroles aussi.
Mais bien sûr. Cet oiseau, c'est vous?
Oui, puis c'est la liberté aussi. J'ai toujours aimé aussi être libre. Être libre, là, d'être libre de faire ce que j'ai envie de faire, puis de... être libre, tu sais, j'arrive chez nous, puis il n'y a personne qui m'attend, puis tu sais, je vois ce que je veux, puis je reviens quand je veux, puis ça a toujours été pas mal, disons, mon premier point, là. Mm-hmm. C'est pour ça que j'aime cette chanson-là, j'adore ça.
Elle est très belle, effectivement, et quand vous parlez de liberté, ça ressemble beaucoup, évidemment, à une autonomie que vous avez aussi. Et vous nous avez parlé tout à l'heure donc de l'association qui est l'association des handicapés gaspésiens. Oui. Pour vous, vous dites que c'est comme votre deuxième famille.
Oui, c'est comme ma deuxième famille parce que premièrement, c'est grâce à ma sœur que j'ai pu aller là. Mmh. Et puis parce qu'elle m'en avait parlé. Puis après ça, j'ai téléphoné, puis j'ai dû avoir des activités. Puis là, j'ai appris à être autonome. J'ai appris à m'exprimer, puis après ça m'a permis d'aller à l'école, de faire mon secondaire 5.
Wow, adultes?
Oui, aux adultes. Et puis, mon premier travail, c'était là à l'association, là, comme animatrice, justement. Ça fait que c'est ça, après ça, j'ai travaillé. Puis ça m'a permis d'être beaucoup, beaucoup autonome. Ça m'a beaucoup aidé. Puis je participais aux réunions. J'étais dans le conseil d'administration. Je participais aux réunions. J'allais à l'extérieur parce qu'on était comme délégué par le conseil, justement, d'aller... Puis j'ai appris beaucoup, beaucoup. Puis je me suis aperçue que, vu que j'étais une personne avec un handicap, puis je me suis aperçue que j'aimais ça, là, je veux dire, apprendre, puis connaître qu'est-ce qui se passe pour du côté de comme personne handicapée, tout ce qui entoure là, les personnes handicapées. En tout cas, j'ai bien aimé ça.
Ça vous a permis déjà savoir que vous n'étiez pas seule et de pouvoir vous donner des trucs, vous supporter et partager des activités et des passions avec les autres personnes qui font partie de l'association.
Oui. Puis je me suis fait des amis. Puis encore aujourd'hui, Tu sais, j'ai encore des amis, puis j'en ai connu d'autres aussi, parce qu'à un moment donné, l'association, ben, ça fait comme une routine. Comme moi, ben, avant, j'y allais à tous les jours. Aujourd'hui, ben, je suis rendue à 69 ans. Ça fait que là, j'ai pris ma retraite un peu. Puis, j'y vais deux fois par semaine, disons, là, deux jours par semaine. Et puis, tu sais, c'est comme une routine. Il y en a qui sont partis, puis, tu sais, on part, puis après ça, il y en a d'autres qui arrivent, puis ont besoin, oui. Les autres aussi, la même affaire.
Donc, c'est selon vos besoins, c'est ça qui est génial et c'est ça le but de l'association, hein? C'est les besoins de chacun d'aller justement socialiser. Vous êtes libre. Là. On va dire que le mot-clé hein, de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment la liberté, Hélène.
Oui.
Et il paraît que jusqu'à vos 20 ans, vous ne saviez pas, en fait, vraiment à quoi était dû votre handicap.
Non. Oh, ça, je l'ai appris quand j'arrivais à l'association. Quand j'étais chez nous, là, je savais pas ça parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai été, disons, je n'étais pas entourée de personnes avec un handicap comme moi. Là. Comme chez nous, je suis la seule personne qui a un handicap. Et puis, on m'a jamais mis de côté pour dire, ben, OK, elle est handicapée, on la met de côté, on ne veut rien savoir d'elle. J'ai toujours eu des amis. J'étais allée à l'école normale avec des amis. J'étais entourée. J'ai jamais connu, puis je savais pas, moi, c'était quoi, là. On n'en parlait pas chez nous non plus, là. Ma mère m'a jamais parlé, ben, de mon handicap, rien, c'était quoi. Puis tout ça, j'ai jamais. Mais arrivée à l'association, c'est ça que j'ai aimé, c'est que quand j'ai commencé à l'association, je me suis aperçue que j'avais un nom, mon handicap, il y avait un nom. Par rapport à quoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça, cet handicap-là, ça vient de où, j'ai tout appris ça.
Puis et ça vient de où alors, parce que je suis curieuse?
Oui, bien c'est ça, c'est parce que je suis dans le monde avec ça, mais c'est comme dans la tête, c'est comme, moi ils m'ont expliqué que c'est comme des fils là, qui sont morts, là. Je disais ça, je ne devrais pas dire ce mot-là, mais en tout cas, c'est comme des contacts, là, je ne sais pas trop, là, que c'est dans le cerveau, disons, là, qu'il y en a qui vont être paralysie cérébrale intellectuelle. Okay. Moi, j'ai été chanceuse, c'était juste physique. Ça aurait pu arriver que c'était intellectuel aussi, j'aurais pu être capable de parler, en tout cas, j'aurais eu de la misère. Mais moi, mon handicap, c'était juste physique, ça m'a donné une chance, disons, là.
Oui, je comprends bien. Puis, si on retourne encore un peu plus loin dans votre vie, quand vous étiez plus jeune, vous avez appris à accepter votre différence et votre corps, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand vous étiez plus jeune, ça vous crée un petit malaise, surtout au niveau de votre main.
Oui, c'est ça. C'est que quand j'avais un manteau ou quelque chose de même, puis il fallait qu'il y ait tout le temps des poches, puis je mettais ma main dans ma poche pour pas que ça paraisse. Je voulais pas que ça paraisse, ma main. Puis, à un moment donné, j'ai arrivé chez le médecin avec ma mère, puis la secrétaire, bien, j'avais mes deux mains dans les poches. Je mettais mes mains dans les poches, pas que ça paraisse. J'ai arrivé devant la secrétaire, puis là, ma mère, elle dit, elle vient handicapée, puis tout ça, puis elle parle de tout ça. Puis la secrétaire, elle dit, on se connaît son handicap, elle dit, ça paraît pas. Fait que là, j'ai sorti mes deux mains, puis j'ai montré. J'ai montré mes deux mains, j'ai dit, c'est ça, là, j'ai dit, mon handicap, j'ai dit, c'est ma main, fait que là, c'est ça, là, elle a vu que j'avais été handicapée.
Est-ce que c'est ce moment qui a un peu brisé la glace puis qui a fait que vous l'avez plus assumé par la suite?
Non, pas beaucoup, parce qu'après ça, ça a continué. Mais c'est arrivé à ma tante. Quand j'arrivais à l'association, je voyais des personnes, puis je voyais d'autres mondes aussi. Je voyais quand j'allais à l'extérieur des réunions, puis tout ça. Puis je dis, voyons, Hélène, t'es pas toute seule là-dedans, vous autres, puis ils montrent leur handicap. Puis leurs mains, puis tout ça. Puis justement, la personne que je vous ai dit pour le Kodak, là, avait le même handicap que moi. Elle n'avait pas la main dans ses poches. Que je ne ferais pas pareil. C'est ça. Ça m'a donné le courage de dire, OK, je suis faite de même, je suis comme ça, ben j'y vais, puis il n'y a rien qui m'arrête. Parce que même, il y a déjà quelqu'un qui me dit, Hélène, ça paraît pas, tu es handicapée. On se l'aperçoit pas, parce que des fois, avec l'handicap, c'est le monde, ils ne le voient pas. Ils disent, ben là, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ci. Puis je dis, ben là, tu écoutes, là, je suis pas capable, ma main. Là. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé.
Les gens oublient.
Oui, les gens oublient. Ils ne voient pas comme, tu sais, ben là, être handicapé, ils ne voient pas comme ça. Ils me voient comme une personne, entre parenthèses, normale. Là, puis fait que là, je fais ça. J'ai dit, ben oui, je t'en
fais. Ben, ça. Et tout à fait. Et c'est pas ça qui, au contraire, vous êtes une personne à part entière et vous avez vos passions à vous et beaucoup d'activités que vous pouvez faire malgré tout. Et si on parle justement un peu de vos passions, je sais que vous aimez énormément le chant et la musique.
Oui, j'aime beaucoup le chant et la musique. Là, j'adore écouter comme là, c'est sûr que j'aime le rétro, ça fait que là, j'ai mes CD. Et puis, j'aime chanter. Moi, quand j'étais jeune, maintenant, j'étais à Capuchon, j'étais capable d'aller d'un bar, ben j'allais me chanter avec l'orchestre. J'aimais ça. Il y avait des concours d'amateurs, j'allais chanter. Et puis, même à Matane aussi, là, à Matane, ben pas même, mais on a monté une chorale à la DSG, justement, l'association.
Oui.
Et puis, j'aime ça chanter, en tout cas, fait que là, il y avait une chorale, puis là, c'est un titre, on peut pas, là.
Malheureusement.
Mais quand je vois là aussi, on écoute de la musique, puis en tout cas, c'est, j'aime bien ça, j'adore la musique. Puis moi, pour me détendre le soir, je mets mes écouteurs dans les oreilles, puis j'écoute un CD. Là, j'écoute de la musique. J'adore la musique. J'ai toujours aimé la musique.
D'ailleurs, vous avez même, il y a un frère religieux qui vous a déjà appris à jouer d'un instrument.
Oui, le piano. C'est bien trop vrai. On avait un frère qui nous apprenait le piano à l'association, justement. Et puis, il m'avait organisé la portée pour que je puisse jouer d'une main.
Magnifique.
J'avais pas besoin de jouer des deux mains. Il m'avait organisé les notes puis tout ça pour que je puisse jouer d'une main. Fait que ça me faisait plaisir. J'étais comme les autres. Je jouais comme les autres.
C'est ça. Il n'y a pas de limite.
Non, c'est ça. Je trouvais ça le fun. Caroline de Bine. J'ai dit, oh oui, j'aimais ça.
Et pour terminer, Hélène, j'ai envie que vous nous parliez du coin parce que vous êtes de Matane. Et qu'est-ce qu'il y a de délicieux à manger en ce moment à Matane?
Ah, c'est du homard.
Oh là là! Là, ça nous met l'eau à la bouche.
Oui. Ça fait, ouais. Ce qu'il y a de beau à Matane, c'est les îles. Le parc des îles, c'est très, très beau, très, très... Puis là, on peut aller se promener au parc. Aussi, il y a la rivière, c'est sûr. Ça fait que le monde va se baigner à la rivière, il y a une plage. Aussi, on a une passe migratoire qu'on peut voir le saumon par une vitrine.
Oh,
là,
wow.
Il y a comme une. Ça fait que on voit passer le saumon. Puis non, c'est très, très beau, Matane.
Vous allez souvent vous profiter en fait de ce lieu magnifique,
oui,
pour vous promener et profiter de l'air frais.
Oui, l'été, là, surtout, là, il y a comme puis même il y a un sentier aussi qu'on peut aller jusque on a ça s'appelle les jardins de Doris. Là, il y a un beau jardin, il y a des fleurs, il y a toutes sortes d'affaires. Là, il y a un grand sentier qu'on peut aller à pied, là, puis on marche à peu près une demi-heure, une heure, puis à un moment donné, on arrive au jardin de Doris. C'est très, très beau, là. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des animaux, en tout cas, c'est un beau jardin de Doris. Fait que là, on continue, puis même on peut faire le tour des îles aussi, puis des activités aussi, des fois, ces îles.
C'est un beau petit coin de paradis. Ça donne envie d'y aller, de découvrir ce beau coin. Et j'ai envie de vous dire de vous régaler puis de profiter du bon homard, des bonnes crevettes et du bon crabe. Je vous dis ça, mais c'est à moi, je me fais du mal en le disant.
Si j'ai la chance d'en manger pour vous, je pense
bon,
à vous.
Très bien, ça fait très plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Hélène Saint-Pierre. C'était un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui.
Bon, merci à vous. Bonjour.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, on discute avec Nicolas Claveau. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Oui, Camille Chai, toujours ici présente avec vous et j'accueille mon deuxième invité qui s'appelle Nicolas Claveau. Il a 39 ans. Il vient de Alma au lac Saint-Jean. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille, ça va bien?
Oui, très bien, merci. Et vous?
Oui, très bien. On a une belle journée ensoleillée. On en profite pour s'entraîner puis profiter du beau temps aussi.
Et c'est pas un hasard si vous nous parlez du beau temps et de s'entraîner parce que ça fait partie de vos passions et vous passez énormément de temps, non seulement à l'extérieur, mais à vous entraîner aussi. Pour quelle raison?
C'est parce que du 4 au 7 juin, je vais faire le tour du lac Saint-Jean en chaise roulante avec une freewheel, une roue en avant, comme un peu Chantal Petitclerc mm-hmm. avec en faisant ses compétitions paralympiques. Puis du 1er juillet au 10 août, je vais faire la traversée du Canada en handbike, un vélo propulsé par les bras.
C'est incroyable juste d'entendre ça. Je veux dire, autant la chaise roulante avec la free wheel, donc c'est vraiment dire c'est une roue, pas une roue libre, mais oui. Hein.
Oui, parce que faut comme ta contrôle, parce qu'elle n'est pas rattachée directement après okay. la chaise roulante, oui et non, mais elle est pivotante, fait que... Faut ta contrôle quand même quand tu te propulses.
Oh, incroyable. Donc, je répète, hein, du 4 au 7 juin, ça, c'est dans la chaise roulante avec la roue libre. Et on s'entend pour dire... Et donc, la traversée du Canada du 1er juillet au 10 août en vélo manuel.
Exactement.
Lequel est le plus difficile à contrôler?
C'est la chaise roulante avec la freewheel, mais la chaise roulante tout court, parce que quand tu grimpes des côtes de 20-25% d'inclinaison, c'est juste ton cœur, ta détermination, puis ta perte de gains qui te permet de monter des côtes aussi abruptes qu'avec un vélo à main. Mm-hmm. Au manuel, ben, t'as 27 vitesses. Fait que quand tu te mets sa première vitesse puis sa première gear, c'est comme si tu roulerais dans le vide tellement oui. que c'est facile.
Ah oui, je comprends. Donc, beaucoup plus physique. Et Nicolas, vous parlez des gants. Ça peut paraître banal, mais les gants, ils sont pour beaucoup dans cette situation-là. À quel point vos gants sont un élément important dans votre matériel d'entraînement?
Je dirais que c'est à peu près 65% du matériel puis de l'importance parce que pour éviter de blesser les mains, si tu blesses les mains, ben t'as bien beau avoir la volonté que tu veux. Tu vas tout le temps t'écorcher sans arrêt
oui.
en continuant de vouloir te dépasser.
Oui.
Puis grâce aux paires de gants que j'ai trouvé en Kevlar, ça a pris 2 ans avant de les trouver. Après ça, eux autres, ils me durent 2 mois d'un main. Okay. Après ça, ils me restent juste à les jeter parce qu'ils sont troués.
Oui, donc c'est... Puis vous êtes, d'ailleurs, vous êtes, on peut le dire, hein, un expert du gant parce que vous êtes même commandité.
Oui, exactement, par la compagnie SPI. Qui est sécurité, protection au travail,
mm-hmm.
pour eux autres qui travaillent vraiment physique ou qui sont spécialisés dans un domaine pour des gants, mettre des gants à rude épreuve.
Oui.
Comme moi, ben ça me faut des gants anti-adhésifs parce que quand je descends des côtes de 15-20% d'inclinaison, c'est juste ma part de gants qui m'évite de rouler des vitesses excessives parce que je me retiens après des sessions en métal.
Mais oui.
Mais ça use contre le rubber aussi ou le pneu
mm-hmm.
qui fait que pour m'empêcher de trop descendre vite la côte.
Oui, c'est quand même quelque chose d'important. Et sachant que vous avez énormément de volonté, c'est presque dangereux. Vous avez intérêt à avoir les bons gants parce que c'est important de ne pas se blesser quand même.
Exactement.
Et là, on parle de vélo, de course. J'ai envie de basculer vers qu'est-ce qui vous a donné la piqûre ou la passion du vélo. Vous avez une anecdote avec votre frère quand vous étiez plus jeune.
Oui, exactement. Moi, mon frère est 3 ans plus âgé que moi. Fait que lui, il avait son permis de conduire. Puis moi, ben, on travaillait au même endroit. Le samedi ou la fin de semaine, en se rendant au travail, moi, j'utilisais mon vélo.
Mm.
puis ça prenait environ 30 secondes de différence entre lui qui arrive au travail avec son véhicule, puis moi en vélo.
Incroyable. Donc, ça vous a donné, ça a développé votre esprit sportif et de compétition.
Exactement. Puis ensuite, vu le 10 ans, je faisais le tour du lac Saint-Jean en vélo deux roues. Puis ensuite, j'étais rendu à regarder pour la traversée du Canada. Mais vu que j'avais un problème de hanche et de boule, ça fait que là, il a fallu que je regarde plus pour un vélo adapté.
Mm-hmm.
Puis l'année passée, j'en ai trouvé un. Puis j'ai dit, je m'entraînais en chaise roulante, ça fait au-dessus de 3 ans. Enfin là, j'ai dit, je vais essayer de faire le tour du lac avec mon vélo manuel en 2 jours, comme je faisais avant avec mon vélo 2 roues.
Incroyable.
Puis j'ai réussi. Oh. Puis après ça, j'ai dit, je vais me lancer un défi de plus grande envergure, oui. Qui est la traversée du Canada.
C'est vraiment impressionnant. On en reparlera tout à l'heure à la fin de l'émission pour les gens qui voudraient avoir plus de détails pour vous suivre à travers ces projets-là. Mais je veux absolument qu'on parle de, bon, pourquoi vous nous parlez de, vous êtes passé d'un vélo à 2 roues à un vélo manuel, le fauteuil roulant, parce que vous vivez avec l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu d'où vient cette maladie et qu'est-ce qu'elle, quels sont les symptômes?
Je peux vous dire les symptômes parce que la maladie, ils ne savent pas d'où elle vient, puis probablement que les chercheurs ne le régleront jamais.
D'accord.
Fait que c'est tout le temps du cas par cas. Moi, comme je peux voir ou discuter avec d'autres mères de famille qui ont des enfants atteints, c'est que l'enfant commence à marcher à 18 mois.
Okay.
Et ça fait un retard, point de vue, équilibre. Puis ensuite, il dit au niveau du cervelet qu'il y a une mauvaise connexion ou une mauvaise calibration pour vraiment faire les mouvements naturels.
Mm-hmm.
Mais il ne veut pas, les spécialistes n'en savent pas plus. Puis ils font juste dire aux parents, c'est normal. Puis le médecin, en plus, pour ne pas t'aider dans la vie, il marque dans ton dossier maladie dégénératrice.
Ah oui.
Ça, même si tu te présentes dans n'importe quel hôpital, personne ne t'écoute parce qu'il y a un médecin dans ta vie. Quand tu étais jeune en plus, il y a marqué maladie dégénératrice qui veut dire arrange-toi avec tes problèmes parce qu'on ne t'écoute même pas.
Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que vous savez d'où vient le nom Charlevoix-Saguenay? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça?
Ben, c'est parce que c'est la région qui a plus de personnes atteintes, comme il y en a en Beauce. Okay. Ils appellent ça la Texas de Beauce.
Okay.
Il y en a en France aussi. Je pense qu'il y en a en Australie aussi. Que, dépendamment de la région, il y a plus de personnes à mauvaise coordination, comme mm-hmm. on pourrait dire.
Mm-hmm.
Ils nomment ça la région parce qu'il y a plus de personnes atteintes ou une plus grande concentration.
Oui. Et comme vous dites, c'est du cas par cas. Donc, d'une région à une autre, les symptômes vont être différents, le vécu, les obstacles. Ouais.
Oui.
Et vous, parce qu'on entend bien dans votre façon de le dire, c'est quand même décevant de se dire, débrouillez-vous avec ça. C'est quand même tout un dossier à gérer. Comment vous avez réussi à rester positif puis avoir de l'espoir malgré ce manque d'informations et d'accompagnement pour vous?
Moi, avec mes rêves, l'entraînement, m'entraîner au soleil, puis ensuite, je dis, ils font des vêtements autant pour la pluie que pour le froid que... tu t'achètes les vêtements en conséquence, puis ensuite, tu dis, tu mets ça sur le dos et tu continues à t'entraîner. Moi, c'est pour ça que je m'entraîne autant l'hiver que l'été, l'automne, que tous les jours. Puis ensuite, là, je je regarde pour m'acheter un wetsuit pour pouvoir recommencer à nager dans les lacs parce que dans 3-4 ans, je veux faire un Ironman.
C'est incroyable. C'est tellement beau parce que vous parlez en images et c'est magnifique hein, parce que je dis votre attitude positive, mais c'est une attitude de battant. C'est aussi simple que ça. Il existe des vêtements pour tous les types de climat. Ben, le mental et le moral, on doit l'adapter en fonction de ça aussi, tout simplement.
Ben, c'est parce que si réellement tu laisses un peu de la neige, une précipitation affecter réellement ton moral puis t'empêcher de sortir à l'extérieur, quand tu vas rencontrer réellement une difficulté dans ta vie, ça va être quoi? Tu vas pleurer, tu vas commencer à je suis pas capable, non. C'est respire par le nez, puis ah ouais, continue, puis on y va. Il y a une direction, c'est vers l'avant et jamais vers l'arrière.
Oh là là, Nicolas, vous nous donnez un boost d'énergie et de belles paroles. J'ai envie de dire Alléluia. C'est le titre de la chanson qu'on va aller écouter tout de suite et on se retrouve après parce qu'on n'a pas fini de discuter, Nicolas.
Merci.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah.
Et oui, c'était la chanson Alléluia, chantée par Leonard Cohen. Et c'est votre choix musical, Nicolas. Pourquoi? C'est une chanson qui vous aide encore plus à j'allais dire, être encore plus positif, c'est possible?
Oui, exactement. Ben, quand tu es une personne passionnée comme moi, cette chanson-là montre l'importance d'aller au bout de ses rêves, puis ensuite ne pas laisser le jugement des autres de nous freiner dans notre progression. Et l'importance de s'établir des objectifs quotidiennement, puis de les réaliser.
Est-ce que c'est de ça que vous parlez aussi, entre autres, dans vos deux livres que vous avez écrits?
Oui, il y a une bonne partie. Il y a une partie aussi des difficultés que j'ai rencontrées. Mmh. Comment il a fallu que je fasse face à la difficulté. Après ça, moi, comme tu dis, c'est que je suis comme Obélix, c'est que je suis tombé dans marmite du bonheur, comme je peux le dire, quand j'étais jeune. Fait qu'au lieu de regarder juste qu'est-ce qui est le négatif, ben je me mets de côté puis je me focus juste sur le positif pour agrémenter mes journées puis de voir le bon côté des choses.
En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai envie de dire, c'est le meilleur choix d'aller vers le positif plutôt que le négatif. Mais bon, c'est une chose qui est propre à chacun. Vos livres, ça donne vraiment envie de les lire parce que le premier, vous l'avez écrit en 2006 et le titre est « Demeurer consciemment positif, un choix de vie ». Donc, le message est assez clair, on en parle déjà depuis tout à l'heure. Ça, c'était votre rêve d'enfance, hein, d'écrire ce premier livre?
Exactement.
Et le deuxième... Oui, pardon, allez-y.
Le deuxième, c'est « Vers un monde meilleur ». C'est pour s'il y a des personnes qui décident de prendre en main, puis ensuite arrêter de juste focusser sur le négatif. Quoi. Une des premières choses que moi, je sortirais de la maison si je serais propriétaire d'une maison, là, ça serait la télévision. Il y a tellement de négatifs qui sortent de là, puis moi, c'est une des raisons que je ne l'écoute pas.
Mm-hmm. Donc, c'est un choix. Ce qu'on va chercher comme information, même notre façon de s'alimenter dans tous les sens du terme, c'est un choix qu'on doit faire.
Exactement.
Et là, puisqu'on parle d'alimentation, je fais un lien, bon, toujours avec toutes les notions que vous partagez dans vos livres. Il y a une notion de spiritualité aussi dans tout ça.
Ben, c'est comme le soleil, comme on peut regarder à l'extérieur. Il n'est pas juste là pour nous réchauffer. Il peut être aussi une sécheresse naturelle. Enfin, moi, quand j'ai juste deux, trois morceaux de linge à faire sécher, j'ai une corde à linge à l'extérieur, puis ensuite, je prends la peine de les mettre au soleil. Puis je rentre le soir, j'aimerais juste aller plier, puis aller serrer dans mon tiroir.
Et ça sent bon, hein, le soleil sur les vêtements.
Exactement.
Et donc là, on parle de spiritualité, d'énergie. Vous avez beaucoup de choses à dire parce que vous prenez soin de vous, évidemment, au niveau de votre santé. Votre maladie vous a amené à avoir une curiosité et à avoir envie de vous renseigner sur beaucoup de maladies, même de maladies infantiles. Et vous aimez bien dire que vous croyez beaucoup et surtout aux remèdes plutôt naturels.
Oui, parce que si on recule de Vlossanton, si on était une place où on produisait le plus d'hommes forts qui est mondialement au Québec, juste par de l'alimentation, en s'alimentant avec le bon vieux gruau, les fèves d'or, les soupes maison, en priorisant aussi le moins de sucre industriel, la mélasse, c'était un sucre naturel, les fruits aussi qu'on priorisait. On encanait ou on avait tout le temps un coin jardin dans maison.
Mais oui.
Ou à l'extérieur. Puis tout ça permettait que les enfants comme les adultes étaient en santé, puis il n'y avait pas de médicaments synthétiques. Il y avait tous des remèdes naturels.
Et pour en nommer un autre qui est très simple, auquel on pense pas souvent, lequel vous nous conseilleriez? Est-ce qu'il y en a un que vous consommez dans votre routine à tous les jours?
Oui, moi, la mélasse.
Mm-hmm.
Puis ensuite, pour éviter la grippe, tu mets un peu de poivre dans ton eau.
Ah.
Ou de l'eau citronnée.
Oui, aussi simple que ça.
Tu vas voir qu'il n'y a aucun problème, puis tu n'auras plus jamais la grippe du reste de ta vie.
C'est fou, parce que quand on parle des hôpitaux, puis c'est pas dans le but de critiquer, mais c'est plus de regarder en fait tous les choix qu'on a. Oui, une personne qui est à l'hôpital ou qui veut juste se soigner, mais une simple eau citronnée amène déjà énormément de bienfaits pour le corps.
Exactement. Fait que quand tu es déshydraté ou
oui.
Quand tu sens que tu as un peu de problématique, soit au niveau des mucus de la gorge ou du nez, tu te rends compte que le citron ou même l'oignon cru
oui.
possède des très bonnes vertus.
Mm.
Puis soigne juste par ces deux aliments-là environ 80 à 90% de plusieurs maladies ou de leurs symptômes.
Ça fait du bien de se le faire rappeler, Nicolas, parce que c'est des choses que hein, je pense qu'on a tous déjà entendues, qu'on se fait tous dire, mais dans les faits, après, les habitudes qu'on a de s'alimenter, on fait bon des exceptions, évidemment. Puisqu'on est dedans, on va tourner un peu le couteau dans la plaie. Quels seraient, ben, selon vous, ou selon tout ce que vous avez lu et tout ça, les principales causes des maladies?
Il y en a cinq environ. Il y a la malbouffe avec la friture.
Mm-hmm.
Il y a aussi le sucre industriel.
Oui.
Il y a ensuite les produits laitiers qu'ils ne disent pas, mais qu'on n'est pas conçu pour en prendre parce qu'il y a du lactose là-dedans.
Mm-hmm.
Qui est conçu pour les animaux, mais pas pour l'être humain.
Mm-hmm.
Après ça, il y a le four micro-ondes avec les rayons gamma, que c'est nocif aussi. Puis en plus, quand on utilise du plastique pour faire réchauffer nos aliments, c'est toute question... tout ce qui n'aide pas pour nous rester en santé.
Mm-hmm, mm-hmm.
Puis ensuite, les mains préparées d'avance
oui.
ou surgelées
mm-hmm.
qui nous disent que c'est bon, mais c'est parce que quand on fait cuire les légumes dans l'eau, 70% des vitamines restent dans l'eau. Fait que quand ils sont mis en emballage, puis vendus dans un magasin, dans les épiceries,
oui.
70% de tous les minéraux, puis vitamines, puis tout ça, sont plus dans les emballages préparés d'avant.
Effectivement, ça a été jeté il y a bien longtemps.
Exactement.
Ben c'est intéressant au niveau de la nutrition. Et ben, pour les quelques minutes à peine qui nous restent, on a parlé en début d'émission bon, des événements importants pour lesquels vous travaillez en ce moment, parce que vous organisez aussi beaucoup d'événements pour justement faire des levées de fonds. Vous avez entre autres le 23 mai un Michoui que vous organisez. Donc je répète, hein, c'est du 4 au 7 juin que vous allez faire donc le tour du lac Saint-Jean avec la chaise roulante et la roue libre. Et la traversée du Canada en vélo manuel du 1er juillet au 10 août. Où est-ce que les gens peuvent vous suivre ou être au courant de ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou sur Internet?
Sur ma page Facebook au www.facebook.com/Nicolas, NICOLAS.clavau, CLAVAU.public. Ensuite, ils peuvent voir tout ce que j'ai réalisé, puis en même temps faire un don s'ils veulent, oui, en même temps, parce que j'ai eu une campagne de financement avec le site GoFundMe. Mm-hmm. Le 7 de juin, mais je reviens de mon tour du live, je veux faire un souper bénéfice. En même temps, un Zoom pour expliquer aux gens ou à mes supporters comment ça a été, quelles difficultés j'ai rencontrées. S'il mm-hmm. a fait beau, et dans ma oui. tête, c'est sûr qu'il va faire beau parce que...
On est convaincus.
Exactement.
Beau temps, mauvais temps, il va faire beau. Nicolas, bonne chance pour tous ces magnifiques et ces énormes projets. On va vous suivre sur les réseaux et ça sera un plaisir de vous reparler pour la suite parce que vous allez vivre beaucoup de choses. C'était un plaisir de vous parler. Merci infiniment pour toutes ces belles leçons.
Merci Camille. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine.
Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, comme toujours, si vous voulez réécouter les émissions ou les partager avec vos proches, allez sur le www.canalm.vusezvoix.com ou alors sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Merci à toute mon équipe, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien, La Liberté, à l'habillage sonore. Merci à vous, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.